Silence.
Toutes et à tous, c'est très bonne année en ce premier jour de l'année 2020. On vous souhaite tous nos bons voeux. L'équipe de Radio Entremer vous souhaite une excellente année, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie, de partage, d'amour, de bonne musique et tout ce que vous désirez. Bonjour Anne, qui est derrière son micro à l'heure et comme il faut, comme tous les mercredis de l'année.
Oui, merci Damien pour ces bons voeux pour nos chers auditeurs. Et ben moi, je présente les miens, bien sûr, aussi, au nom de l'équipe, bien sûr, au nom de Radio Entre-deux-Mers. Et j'espère que, voilà, que vous avez passé de bonnes fêtes, déjà, hein, fêtes de Noël, fêtes du premier de l'an. Et ben oui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter que le meilleur, bien sûr, parce que nous, on vous aime quand même, hein, nos petits auditeurs chéris. En tout cas, moi, je vous aime, puisque je vous le dis à chaque fois, puis c'est vrai en plus. Mais Damien aussi, hein, que tu les aimes, Damien.
Oui, bien évidemment, car sans les auditeurs, on ne serait rien.
Ah, exactement, c'est tout à fait ça. Sans les spectateurs, les films ne seraient rien non plus. Donc, c'est vrai qu'on parle de cinéma, mais on espère toujours que nos auditeurs iront voir un film ou deux quand même, hein, par rapport à tout ce qu'on leur dit sur le cinéma. Et puis, moi, je voulais vous citer Antoine de Saint-Exupéry pour cette nouvelle année. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, bon ben mes amis, mes chers amis, nous allons parler cinéma.
C'est ça, car en ce lendemain de réveillon, il y a des films qui sortent, même aujourd'hui, jour férié, premier jour de l'année. Les films sortent et les salles obscures sont ouvertes.
Ah, complètement aussi. Mais il y a eu de beaux programmes à Noël. Là, bon, pour le premier, il n'y en a pas énormément. J'ai essayé de trier, de voir ce qu'il y avait de meilleur pour vous, mes chéris. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Mais on va commencer par une comédie. Enfin, c'est comédie, c'est drame, c'est il y a les deux, pardon. C'est français, ça s'appelle Les Vétos. Alors, Les Vétos, ben, c'est de Julie Manoukian. Julie Manoukian, c'est une réalisatrice scénariste, elle a 37 ans, et c'est la fille d'un musicien, de quelqu'un qu'on connaît, qu'on voit parfois à la télévision, enfin assez souvent même, dans des émissions musicales, qui s'appelle André Manoukian. Eh bien, c'est une de ses filles, voilà. C'est sa fille aînée, je crois. Donc, elle a réalisé ce film sur les vétérinaires, hein, les vétos, ça s'appelle comme ça, ce sont les vétérinaires. Ça se passe au cœur du Morvan. Nico est le dernier véto du coin. Il se démène pour sauver ses patients, sa clinique et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite. Nico sait que le plus dur est à venir. Excusez-moi. T'en fais pas, j'ai trouvé la relève. Sauf que la relève, c'est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d'accord pour revenir s'enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? Bon, ça commence bien, c'est une jolie histoire, je trouve. Alors, le casting est quand même, c'est un chouette casting, voilà. Hein. Ils sont tous connus, si vous avez l'habitude d'aller au cinéma, mes chéris, vous les connaissez pratiquement tous, vous les reconnaîtrez en tout cas. Si vous allez voir le film, on a Clovis Cornillac, c'est Nico, bien sûr, on a Noémie Schmidt, c'est une, en fait, qui fait Alexandra, on la connaît parce qu'elle tourne beaucoup en France, c'est une actrice suisse. Et on a Carole Franck, qu'on connaît, Mathieu Samper, on le connaît aussi, quand on le voit, on le reconnaît. On a Lilou Fogli, Michel Jonas. Alors Michel Jonas, c'est Michel, celui qui part à la retraite. On a Christian Siniger, on a Juliane Le Pourreau. Là, c'est joli, c'est un joli casting. Là. En fait, Julie Manoukian nous dit c'est un métier, enfin son père lui avait dit c'est un métier qui touche beaucoup de gens, en parlant des vétérinaires, hein. C'est un métier qui touche beaucoup de gens, de plus en plus sensibles au bien-être animal. Je suis sûre qu'on peut raconter une belle histoire. Et il avait ajouté que si j'arrivais à l'écrire, il m'en confierait la réalisation. J'en étais restée presque sans voix. Réaliser est le rêve de ma vie depuis l'enfance. Voilà ce qu'on lui a dit déjà sur les vétérinaires. Et puis, le monde des vétos. Alors, c'est quoi le monde des vétos? Mon point d'entrée dans ce monde que je ne connaissais pas, nous confie Julie Manoukian, c'était les soignants. Je suivais depuis des années des médecins auteurs comme Martin Winkler, Baptiste Beaulieu, dont j'admirais la passion, l'humanité et l'humour. Quand j'ai commencé mes recherches sur les vétérinaires en zone rurale, j'ai découvert leurs conditions de travail, la pression constante, et j'ai retrouvé le même humour, la même passion et le même héroïsme discret à faire ce métier dévorant. Ce sont des gens qui ont mis leur vie au service des autres. Ils travaillent dans des conditions difficiles, avec des horaires de dingue, pour des salaires sans rapport avec le boulot qu'il leur a fallu fournir pour avoir leur diplôme, l'un des plus difficiles à obtenir. On apprend, avec ce film, mes chéris, on apprend beaucoup de choses sur les vétérinaires. Moi, j'en ai un qui est formidable, qui est formidable, qui est à l'aréole et que j'aime énormément. Et voilà, c'est... Effectivement, je reconnais là dans la description que Julie Manoukian nous fait mon propre vétérinaire. Je reconnais tout à fait, c'est tout à fait ça. je lui fais un petit coucou. Voilà, je pense qu'il nous écoute, je lui fais un petit coucou, un gros coucou même. Alors en fait, le véto de campagne par exemple, c'est quoi? Le véto de campagne doit savoir soigner pratiquement tous les animaux. Qui soient domestiqués ou pas d'ailleurs, de compagnie ou sauvages, soit des animaux de compagnie, soit des animaux sauvages, sans compter ceux qui appartiennent à des espèces exotiques. Eh oui, alors là, soigner un animal d'une espèce exotique, ça doit être quand même quelque chose d'assez formidable et en même temps très difficile. Et puis ce véto de campagne, il doit être disponible jour et nuit. Aussi bien pour les mises à bas que pour les autres urgences. Et puis, il aide à donner la vie. En outre, ils sont les seuls à supporter cette responsabilité exorbitante du droit d'euthanasie sur leurs patients. Eh oui, elle nous dit « Je suis tombée en admiration pour leur métier, qu'ils exercent toujours avec passion et abnégation, malgré un statut qui se délite et des clients qui leur en demandent plus qu'avant. » Ouais. Voilà, c'est moi. Je suis touchée là par tout ça. Quand j'ai vu les extraits, quand j'ai lu tout ce que Julie Manoukian, la réalisatrice, avait dit sur les vétos, j'ai eu des frissons parce que c'est bien comme ça moi que je les voyais, mais pas autant quoi, pas aussi. Cette description est extraordinaire. Ce film vaut absolument la peine qu'on aille le voir, ne serait-ce que justement. Pour un hommage à ces gens qui s'occupent de nos animaux. On est tellement contents quand ils nous les sauvent, quand ils arrivent à faire des miracles. Moi, j'appelle ça comme ça. Avec mon vétérinaire Philippe Delay de l'Aréole, j'ai déjà eu droit à deux ou trois petits miracles par rapport à mon petit chien. Et donc, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Et ce film est pour vous, mes chéris, si vous aimez les animaux, si votre animal est soigné par un vétérinaire qui ressemble à celui que nous décrit, à ceux que nous décrit Julie Manoukian, alors ce film est absolument, absolument pour vous. Il ne faut pas le rater. Ça dure 1h32. Allez le voir. Franchement, c'est mon gros coup de cœur.
Et on écoute la bande annonce.
Et j'ai un peu d'émotion dans la voix, je suis désolée. Vous me connaissez, hein.
Allô, Michel? Qu'est-ce qui se passe?
Il a que moi comme famille, je peux pas le laisser tout seul.
Mais c'est où ton bled?
Dans le Morvan. Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique.
C'est quoi ces conneries, Michel?
Oh, t'es trop jeune pour être vétérinaire.
Ah, mais je suis pas véto, je suis chercheuse.
Nicolas, je suis l'associé de votre oncle. Moi, ça fait 5 ans que je cherche la relève. Jusqu'à 40 km, c'est notre territoire. Tout seul, j'ai aucune chance.
Ma vie, elle est pas ici.
Bon, maintenant, si tu préfères attendre une autre voiture, hein, libre à toi. Mais sache quand même que là, on doit être à peu près au maximum du trafic.
Tu vois bien qu'elle a pas les épaules.
Sortie majeure de sa promo.
Il est dépressif.
Dépressif? Mais de quel droit?
Quelle idée aussi, une femme veto.
Tu sais que 80% des étudiants veto, c'est des femmes.
Eh ben, on n'est pas sortis de la semoule.
Voilà!
Vous savez pas ce qu'elle m'a dit? Que si la vieillesse était une maladie, moi j'étais bonne pour me faire piquer la prochaine fois que j'avais un lumbago.
C'est à qui?
Oui, mais non, en fait, ça va, moi j'ai le temps, je suis pas pressée.
J'en ai marre de réparer toutes tes conneries!
Je vais pas y arriver.
Je sais que tu vas y arriver.
Mais c'est gérée prête?
On fait quoi aujourd'hui? On suture, on plâtre, on défibrille?
Ce métier, il est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leurs gagne-pain, les enfants qu'ils ont pas eu, les époux qu'ils ont perdus. Alors on les écoute et on les rassure.
Mais je suis pas psy, moi.
Si, ça fait partie du boulot.
C'est reparti. Ça fait toujours ça?
Sauver une vie? Bah reste. Comme ça, tu sauras.
Voilà la bande-annonce des Veto, donc qui sort aujourd'hui partout en France.
1h32. Oui. Voilà.
Ensuite nous allons continuer.
Oui, avec une romance. C'est un peu drame, c'est romancé, c'est américain. Les filles du docteur Marsh, voilà comment ça s'appelle, c'est le titre. Oh, je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs connaissent cette histoire des filles du docteur Marsh, parce que il y a quand même eu énormément de films sur cette histoire qui est tirée d'un roman. Alors il y a eu par exemple, il y a eu en 1918 le premier film, c'était un film muet, voilà, qui parlait des filles du docteur March, les quatre filles. C'était Harley Knowles, à l'époque, un grand réalisateur de muets, qui l'avait réalisé. Ensuite, en 1933, on a eu les quatre filles du docteur March de George Cukor, qui est un très, très, très grand réalisateur. En 1949, on a eu les quatre filles du docteur March de Melvin Leroy, grand réalisateur d'époque aussi. Et en 1994, on en a eu encore un de Gillian Armstrong, les filles du docteur Marsh. Voilà. À la télévision aussi, il y a eu des séries. Il y a eu 3 téléfilms et 2 séries quand même. Hein. C'est assez. Et pour couronner le tout, il y a quand même eu aussi 4 séries télévisées d'animation. Et oui, ça a commencé en 81, 87, 93. Série japonaise. Voilà, une série japonaise sur les filles du docteur Marsh. C'est quand même assez... Et à la télévision, quand même, je disais 3 téléfilms. En fait, ça a commencé en 1958 et le dernier date de 2017. Donc, c'est quand même une histoire qui a inspiré énormément de réalisateurs et voilà, et des dessinateurs de bandes dessinées aussi, hein, puisqu'il y a des bandes dessinées. Là, c'est un film de Greta Gerwig. Greta Gerwig, c'est une actrice, réalisatrice, scénariste américaine. Elle a 36 ans. Elle a quand même 2 prix et 14 nominations déjà à son actif. On lui doit, par exemple, un film extraordinaire qui est sorti en 2018, Lady Bird. On en avait parlé ici, de Lady Bird, oui, d'ailleurs. On en avait parlé à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers. Et puis, elle a eu... Alors, elle a eu, oh là là, elle avait eu aussi des prix pour... elle a beaucoup tourné. Non, le seul film que j'ai en référence, c'est Lady Bird, parce que c'est extraordinaire, c'est le meilleur qu'elle ait fait. Sinon, elle a des actrices fétiches, quand même. Une en particulier qui est dans ce film-là, qui s'appelle Saoirse Ronan, qui est une actrice irlandaise. C'est elle qui fait Jo. Alors, il y a 4 filles. Il y a Jo, il y a Meg, il y a Amy et il y a Beth. Alors, Saoirse Ronan, c'est Jo. Emma Watson, c'est Meg. Florence Pugh, c'est Amy. Et Eliza Scanlon, c'est Beth. Donc, elles ont l'âge, en fait, les âges du rôle quasiment, hein, les actrices. Après, je vais vous parler du synopsis. Mais là, j'étais sur les actrices parce qu'on a Meryl Streep également qui fait la tante March, qui est un personnage très important dans l'histoire d'ailleurs. On a Laura Dern qui fait Madame March, c'est-à-dire la maman Et puis le papa, c'est Bob Odenkirk qui joue le rôle. On a Laurence. Alors Laurence, c'est l'amoureux de Joe. Joe aime beaucoup Laurence, son voisin d'ailleurs et ami. C'est Timothée Chalamet qui s'y colle. Et puis on a Louis Garrel également dans ce film. C'est un très très beau casting, hein. Vraiment très très beau. Alors c'est quoi ? C'est une nouvelle adaptation des Quatre filles du docteur March, justement, qui s'inspire du grand classique de Louisa May Alcott, qui est une qui a sorti deux volumes en fait. Le premier est sorti en 1868 et le deuxième est sorti en 1869. Ça a été un très gros succès en 1868, la première sortie. En fait, l'auteur, qui avait trois sœurs, s'est inspiré de son propre, de sa propre expérience. Et oui, on n'est jamais mieux servi que parce qu'on vit, évidemment, pour le raconter ensuite. Alors, le roman est paru en France en 1880. Ça a été pareil, il a été très bien accueilli. Et on a une grande écrivaine, Simone de Beauvoir, qui dira « Il y a eu un livre où j'ai cru reconnaître mon visage et mon destin, Les Quatre filles du docteur March, de Louisa May Alcott. » Voilà ce qu'elle disait, ce qu'elle a écrit Simone de Beauvoir. C'est un film, en fait, à la fois atemporel et actuel, où Joe March, alter ego fictif de l'auteur, repense à sa vie. C'est Joe, hein, qui conduit, en fait, le film, en quelque sorte. Voilà, c'est atemporel, c'est-à-dire que c'est une histoire qui n'est pas concernée par le temps. Voilà, hein, c'est, on peut le mettre n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle époque. L'histoire sera la même. Oh là là, excusez-moi. Et sera aussi crédible. Ça dure 2h14. C'est un petit coup de cœur, Les filles du docteur March. Peut-être parce que moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire à l'époque quand je l'ai lue et que j'en garde... un souvenir agréable.
Et on va se mettre dans l'ambiance.
Voici Meg, oui, Amy, merci. Beth et Joe.
Je travaille sur un roman. C'est l'histoire de ma vie et de mes sœurs.
Faites court et piquant. Et si le personnage principal est une fille, arrangez-vous pour qu'elle soit mariée à la fin.
Ah, Joe!
Je veux être artiste à Rome et devenir le meilleur peintre du monde.
Ce n'est pas ce que tu veux toi aussi, Joe, devenir un célèbre écrivain?
Si, mais ça fait tellement vulgaire quand elle le dit. Mes filles ont tendance à faire des sottises.
Oh, moi aussi. Voici Meg, Amy, Beth et Joe.
Je compte bien réussir par moi-même.
Personne ne réussit jamais seul, surtout pas une femme. Tu dois faire un bon mariage.
Mais vous, vous n'êtes pas mariée, tante March.
Oui, mais moi, je suis riche.
Joe, voudriez-vous danser avec moi?
C'est impossible. J'ai brûlé ma robe et Meg m'a dit de ne pas bouger pour que personne ne s'en aperçoive.
Je crois que j'ai trouvé comment faire.
Joe est une cause perdue. L'espoir de ta famille repose sur toi.
Je pense que nous avons la faculté de choisir qui on aime. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus.
Je doute que les poètes partagent cet avis.
Il n'y a qu'à partir maintenant. Je vendrai mes histoires.
Jo.
Et toi, tu devrais être actrice et faire carrière sur les planches.
Ce n'est pas parce que mes rêves sont différents des tiens qu'ils sont moins beaux.
Je t'aime Teddy. Depuis que je te connais, Jo. C'est plus fort que moi.
Ce serait un désastre si nous nous marions.
Ce serait pas un désastre.
On serait malheureux.
Jo, ce serait un véritable sort.
Je regrette.
Une nouvelle pièce de Mademoiselle Jo March. Ah,
les femmes ont un cerveau et une âme. Pas seulement un cœur. Je veux être célèbre ou rien. Et elles sont ambitieuses et talentueuses, pas uniquement belles. J'en ai assez. J'en ai tellement assez d'entendre dire que les femmes ne sont faites que pour l'amour. J'en ai par-dessus la tête. Certaines natures sont trop fières pour s'incliner.
Voici les filles du docteur March.
Oui. Ce qui rend en fait l'histoire atemporelle, c'est que effectivement Joe est un personnage extrêmement moderne.
Et oui.
Les Joe, il y en a même aujourd'hui,
plus que jamais.
Eh oui, absolument. Et c'est ce qui rend cette histoire très touchante également. J'avoue que j'ai ri quand la tante à qui elle dit « mais vous n'êtes pas mariée », dit « oui, mais je suis riche ». C'est terrible, ça, c'est terrible. Je ne suis pas mariée, mais je suis riche. C'est une sortie assez incroyable. En fait, ça, c'est une sortie d'époque, en fait. À l'époque, effectivement, la richesse donnait beaucoup de pouvoir. Maintenant, non, c'est plus. Maintenant, ça permet de consommer. Mais à l'époque, c'était vraiment l'argent, c'était le pouvoir, quoi. Et la tante a du pouvoir sur toute la famille, mais sur Jo, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut. Avec Jo, c'est pas possible. C'est terrible. Belle histoire.
Et nous allons continuer dans un tout autre genre.
Oui. Ah oui, tout autre genre, là. On passe au thriller, film d'action. Oui, voilà. C'est quand même, ça s'appelle Manhattan Lockdown. Alors, lockdown, ça veut dire verrouillage, hein. C'est-à-dire le verrouillage de Manhattan, traduit en français, Manhattan Lockdown. Alors c'est quoi ? Ben, attention, je dis tout de suite qu'il y a un avertissement quand même. Hein. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, c'est important, c'est à noter. Chacun connaît sa position par rapport à ça ou par rapport à ses ados, à savoir s'ils peuvent ou pas, ou même si vous-même pouvez ou pas, quoi, ça. C'est juste un avertissement. Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New York. Voilà l'histoire. L'inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer. D'autant qu'une gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement... Pardon, oh là, excusez-moi, hein, je suis un peu enrhumée. Du coup, j'ai un peu... bon, voilà, hein, un petit peu fiévreuse, mes chéris, mais c'est rien, ça va aller. Pour les piéger, il va complètement isoler l'île de Manhattan, fermant l'ensemble de ses ponts dans une spectaculaire opération. La traque peut commencer. Ah oui, fermer, verrouiller Manhattan, c'est quelque chose quand même, hein, c'est assez... Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait comparer en France ? Verrouiller quoi, par exemple ?
Les Champs-Élysées.
Ah oui, oui, tout à fait, voilà. Verrouillé, mais totalement, quoi. Hein. C'est qu'on puisse plus, absolument plus s'y rendre. Ah ouais, c'est une sacrée opération. C'est un film de Brian Kirk, 3. C'est 3 d'une, troisième du nom, hein. Voilà ce que ça veut dire. C'est un réalisateur, producteur irlandais. Il a déjà eu des nominations, il a 51 ans. Et son polar est quand même, comment on peut dire ça, il est percutant. Voilà, si vous aimez les polars percutants, ce film est pour vous absolument. Il dure 1h41. Alors, on a des acteurs qu'on connaît, pareil, si on a l'habitude hein, d'aller au cinéma, on les reconnaît quand on les voit. Chadwick Boseman, c'est lui qui fait André Davis, d'ailleurs. On a Sienna Miller, on a J.K. Simmons, on a Stephen James, on a Taylor Kitsch dans les rôles principaux. C'est vraiment... bon, voilà, quand on regarde la bande-annonce, d'ailleurs, on se rend compte que c'est un film... comment dire, ça fait presque peur. Hein. Il y a des scènes qui sont quand même... C'est peut-être ça, d'ailleurs, l'avertissement. Il y a des scènes un petit peu effrayantes. Alors, Manhattan Lockdown, donc c'est en fait un... Il est produit par le réalisateur de Captain America. Je ne sais pas si on connaît Captain America. Hein. Ça, Avengers également. Bon, ça donne une petite idée quand même. Hein. Ce sont les mêmes. Ils ont fait Endgame également. Ça, c'était en 2019. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Ben, oui, le premier Captain America, c'était en 2014. Le deuxième, c'était en 2016. Voilà. Ils ont donc réalisé ces films. C'est juste pour les situer quand même. Hein. Et puis, il va y avoir en 2021, il y aura un Black Panther 2. Il va y avoir un Black Panther 2 qui va sortir. On en parlera certainement. Ensuite, ben, Brian Kirk, le réalisateur, en fait, on lui doit quand même beaucoup d'épisodes aussi dans Game of Thrones. Il a beaucoup... Ou Luther aussi. Voilà, c'est pareil. Hein, c'est pour donner une idée de ce qu'il sait faire. Il y a Boardwalk Empire aussi, Empire, pardon, en anglais. Et puis on a, on a un acteur qu'on connaît absolument, si on a vu pas mal de policiers américains, qui s'appelle Taylor Kitsch. J'ai donné son nom tout à l'heure. Il incarne Rest, un militaire de la vieille école qui a perdu son meilleur ami au combat. Alors donc, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il joue un ex-soldat ou un soldat traumatisé. puisque c'est lui qu'on voit dans un film qui s'appelait True Detective. Et il était assez extraordinaire dans ce film. Moi, je l'avais vu, True Detective 2, oui, la saison 2. Il était plus vrai que vrai, en fait. C'est un excellent acteur. C'est pour ça que je voulais dire quelques mots sur lui. En fait, donc le film se déroule dans des zones urbaines. Ce sont des zones les plus peuplées du monde, hein, c'est-à-dire Manhattan. Bien que la plus grande partie du tournage se soit déroulée à Philadelphie, les acteurs et l'équipe se sont aussi rendus à New York pour la conception de plusieurs scènes. Alors notamment à Grand Central Station, à Chinatown, à Brooklyn Navy Yard. Voilà, ils sont allés un peu partout, 3e Avenue, sur les ponts de Brooklyn aussi, il y a eu le tournage. Voilà, ils ont tourné un petit peu partout, mais évidemment, surtout à Manhattan. C'est assez... je trouve que c'est un... Si on aime les policiers extrêmement... ce que je disais tout à l'heure, le mot percutant, c'est tout à fait ça. C'est ce qui m'est venu en tête... en parlant de ce film, là, il est percutant. Voilà. Si vous aimez ce genre de polar, il est pour vous. Hein. Absolument. 1h41, je crois que je l'avais dit. Manhattan Lockdown. Si on avait une petite idée de ce qu'est la bande-annonce, je crois que ça donne une petite idée déjà. Hein.
Allez, on l'écoute.
Ouais, ouais.
Bouclez l'île. Quelle île ? Manhattan.
Si tu fais le mal, tremble.
Deux tireurs qui ont de l'entraînement.
Car ce n'est pas en vain qu'il brandit l'épée. Il fait s'abattre la colère de Dieu sur celui qui fait le mal.
Je vais les retrouver. Si on ne chope pas ces types dans les 3 ou 4 heures, ils disparaîtront.
Que comptez-vous faire ?
21 ponts permettent de sortir de l'île. Bouclez l'île.
Quelle île ?
Manhattan.
Ils m'ont dit que tu exécutes les tueurs de flics.
Magnifique. On scoltine un malade de la gâchette.
Vous feriez bien de faire attention en visant un malade de la gâchette.
C'était un piège.
Appelle ça comme tu veux.
Je viens de le faire. Si tu prends ce chemin, tu devras regarder par-dessus ton épaule toute ta vie.
Je préfère regarder le diable en face.
Voilà, Manhattan Lockdown.
Ah oui, c'est ouf.
Ouais, ouais, on a compris l'ambiance. Ouais, là.
Mais il est très bien fait quand même, hein, franchement. Il est vraiment bien fait. De toute façon, le Brian Kirk, là, troisième du nom, c'est sa spécialité quand même. Hein. Donc, et les acteurs sont tout à fait au top. Hein. Ils sont, voilà, ça leur va très bien. Ils sont très bien dans leur rôle. Ensuite, j'ai encore un policier, c'est japonais, il y a de l'action. First Love, 2 points, le dernier Yakuza. C'est interdit aux moins de 12 ans, hein. Ça, il faut le noter quand même aussi. Ça se passe à Tokyo la nuit. Léo, un jeune boxeur, rencontre son premier amour, Monica, une call girl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises, vont les poursuivre. Alors c'est de Takashi Miike, c'est un acteur, réalisateur, scénariste japonais. Takashi Miike, il a 59 ans, il a déjà eu un prix et 66 nominations, plus 4 nominations pour First Love, le dernier yakuza. À la quinzaine des réalisateurs, hein, 2019, il a eu ses quatre très belles nominations. Et il les mérite. De toute façon, lui, il peut pas sortir un film sans avoir des nominations. Hein. C'est Takashi Miike, il est connu pour ça. Alors, on a dans les rôles principaux Masataka Kubota, c'est Léo d'ailleurs qui joue le rôle de Léo. On a Sakurako Konishi, c'est Monica. Et on a Nao Omori. C'est les deux héros, enfin Léo et Monica, sont assez splendides, je trouve. Ils sont de belles personnes. Ça dure 1h48. Alors, si vous aimez le cinéma japonais, dans ce qu'il a de plus... Comment dire... De plus... Il n'y a pas de roman érotisme là-dedans, mais il y a quand même quelque chose. Malgré que ce soit un film d'action, un film policier, il y a quand même entre les deux personnages quelque chose de très agréable. C'est un peu ça. Les films japonais, il y a toujours par moments de la relâche comme ça, un petit peu. 1h48, je l'ai dit, je crois, non ? First Love, le dernier Yakuza. Les vilains. Alors ensuite, j'ai une comédie française. Mais oui, ça s'appelle Play. Et Play, ça veut dire quoi, Play ? Je demandais à Damien.
Lecture.
Play.
Oui, jouer.
Voilà.
Mais là, je pense que c'est play dans le sens voilà. Jouer la musique. Voilà, jouer,
oui, toi, c'était play, jouer de la musique. Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je pose la question. C'est parce qu'il y a une ambiguïté au sujet du titre. Alors, bon, hein, c'est quoi ça ? Non, c'est vraiment play, jouer, quoi. Puisque ça se passe en 1993. Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Si j'avais dit la première phrase, tu aurais tout de suite dit... jouer dans ce sens-là et non pas musicalement. Pendant 25 ans, Max ne s'arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif. C'est du réalisateur Anthony Marciano, qui est un réalisateur, scénariste, adaptateur français. Il a 40 ans. Il fait de jolies choses quand même, je trouve. Alors, dans les rôles principaux, on a Max Boublil. On le connaît. C'est lui, Max, d'ailleurs. C'est lui qui joue Max. On a Alice Isaas, qui est tout à fait talentueuse et ravissante. On a Malik Zidi, on a Arthur Perrier-Pilu, on a Alexandre Desrousseaux, on a Camille Lou. Ah oui, Alexandre Desrousseaux, en fait, je le cite parce qu'il joue le rôle de Max entre 16 et 20 ans. Et on a également, donc, en fait, on a Mathias Barthélémy qui joue le rôle de Max entre 13 et 15 ans. Voilà. Et puis, on a également le père de Max, c'est Alain Chabat. On a la mère de Max, c'est Noémie Voski. On a Camille Lou également, alors dans tous les rôles principaux. C'est vraiment, c'est très joli. Max Boublil, là, il commence à prendre une grande place dans le cinéma français quand même. Hein. Il joue beaucoup et son jeu est très apprécié apparemment hein, quand même hein, par les spectateurs. Alors, Anthony Marciano, là, Marciano, je ne sais pas pourquoi je dis Marciano, ce n'est pas un Italien, c'est un Français, c'est Marciano, il n'y a pas de problème. Il a eu envie de se replonger dans les souvenirs qui ont marqué ces 25 dernières années à lui, en fait. Il est né en 79, il a grandi dans un monde où le téléphone portable et Internet n'existaient pas. Voilà ce qu'il nous dit. Quand j'avais un amour de vacances, je lui écrivais des lettres et je guettais le facteur en retour. J'attendais que le téléphone sonne et que ma mère décroche le combiné avant de me le passer. Sans dire que c'était mieux avant, c'est quelque chose de sentimental qui m'a donné envie de revivre ces moments et de me remettre dans l'état dans lequel j'étais à cet âge-là. Je ne voulais pas me mettre en scène. Je ne voulais pas, mettre en scène cette époque révolue, mais là, revivre. Et la seule façon d'y arriver, c'était de fabriquer des faux rushs. J'ai eu la chance que mes producteurs aiment cette idée et m'encouragent à me lancer. C'est chouette, ça, je trouve. Ça lui rappelle ses premiers amours. Je trouve que c'est joli comme tout. Alors, par source d'économie, en fait, l'équipe du film a dû faire preuve d'ingéniosité et tourner dans de vraies baraques anciennes ou, par exemple, ou acheter des meubles vintage en ligne. Voilà ce qui s'est passé pour ce film. Et ça a évité tout le travail de fabrication ou de patine. Alors, il nous dit, Anthony Marciano, pour les costumes, pareil, on a récupéré des stocks de vêtements des années 90, ce qui a finalement aidé à renforcer l'authenticité du film. C'est très rare, ça, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est très rare que tout le monde s'y mette comme ça, toute l'équipe, les acteurs, par souci d'économie, en fait. Hein. C'est chouette, je trouve, quoi, ça. Alors, pour donner de la véracité aux propos, la ressemblance entre les acteurs qui incarnent les mêmes personnages à des âges différents, était primordial. Donc, ça veut dire que les deux acteurs dont j'ai parlé, là, c'est-à-dire le Max Boublil, les trois acteurs, Mathias Barthélémy et Alexandre Desrousseaux, ont une sorte de ressemblance, puisqu'il y en a un, c'est 13-15 ans, l'autre, c'est 16-20 ans, et après, c'est l'adulte. Et ils ont une certaine ressemblance, effectivement. Ça ne choque pas. On a l'impression que c'est toujours Max Boublil, mais plus jeune. Ça, c'était quand même important. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, il nous dit, Anthony Marciano, que le casting, ça a été la partie la plus longue du projet, parce qu'il fallait trouver les quatre mêmes copains à trois moments différents de leur vie. Physiquement et tout, quoi. C'est effectivement, c'est pas facile. Donc, c'est 6 mois avant la préparation que Marciano a demandé, justement, une directrice de casting et un chef opérateur pour, justement, trouver ces quatre copains. C'est vrai. Et alors, ça a finalement, il nous dit, duré 9 mois. Il y a eu plusieurs directeurs de casting. Il y a eu du casting sauvage aussi. On a même lancé, nous dit-il, un appel sur les réseaux sociaux. Et j'ai visionné près de 3000 essais vidéo. C'est extraordinaire. Un travail assez assidu, assez compliqué quand même. Hein. Il fallait s'y tenir. Voilà. Eh bien, en fait, finalement, ça fait un très, très beau film. Play. Vraiment, c'est pareil, c'est un petit coup de cœur quand même. Hein.
Et j'appuie sur lecture et on joue la bande-annonce.
Ah voilà, merci voilà. Damien.
Tout ce que j'ai filmé depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début.
Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable.
Action vérité.
Action. Ouais. Round one.
Au revoir caméra. On te rallume dès qu'on obtient la moyenne.
Donc samedi soir, tous sapés.
Putain, on va tout casser ce soir.
Tous devant la boîte et tous recalés.
Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. C'est mon premier jour de permis.
Tous les mecs qui avaient envie de sortir avec Emma.
Je veux remonter sur le pédalo, putain, je vais t'arracher les yeux.
Excusez-moi. Voilà, ça fait un an que je suis là, j'ai pas pigé une cacahuète. Donc je vais arrêter.
Voilà Max, un jeune qu'en veut.
Si t'as quelque chose à me dire, c'est maintenant.
Mais donc tu vois pas que ça fait des années qu'elle t'attend.
N'importe quoi.
Tu me regardes tout le temps, tu me filmes tout le temps, ça veut dire quoi?
C'est quoi, je vais me barrer. Comme ça, je vous gâche pas votre moment.
Si tu fais ça, tu me revois plus.
Va sur moi. T'as rien pris du lycée.
De filmer, s'il te plaît.
Voilà, Play, donc un film d'Anthony Marciano.
Oui, 1h48, je ne sais pas si je l'avais dit. Ah oui, oui.
Et ça sort aujourd'hui.
Ah oui, à voir, mes chéris, franchement. Ça pourra peut-être vous rappeler vos propres souvenirs, d'ailleurs. Pourquoi pas.
Et on continue maintenant.
Oui, on continue avec un drame américain et canadien. L'art du mensonge. Oh, nous, on ne connaît pas Damien ça, hein, parce qu'on n'est pas des menteurs.
Ah, nous, on dit pas. Que les films qui sortent.
Ah, que des films qui sortent. C'est pas l'art du mensonge. Ben, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire d'un escroc professionnel, Rex Courtney, qui a déjà en vue sa prochaine cible. Betty Melaish, récemment devenue veuve, dont la fortune s'élève à des millions de dollars. Voilà la prochaine cible de l'escroc Roy Courtney. Qu'est-ce que j'ai dit, Roy, hein? Roy Courtney, oui. Dès la première rencontre entre Roy et Betty, l'arnaqueur commence par faire son numéro bien rodé de manipulateur. Et la veuve, visiblement séduite, semble facile à duper. Mais cette fois, ce qui avait l'air d'une simple arnaque prend l'allure d'un jeu du chat et de la souris aux enjeux de grande ampleur. Tandis que Roy et Betty découvrent des supercheries bien plus insidieuses, les voilà qui plongent dans un monde de dangers, de complots et de trahisons. Je vous rappelle que c'est quand même un drame. Hein, c'est, voilà. Le réalisateur, c'est Bill Condon. Bill Condon, c'est un scénariste également, producteur délégué. Il est américain. Il a 64 ans. Il a déjà eu quand même 4 prix et 16 nominations dans sa carrière, pour l'instant. Et dans les rôles principaux, on a une comédienne extraordinaire qu'on connaît vraiment. On la connaît peut-être surtout quand, parce qu'elle a tenu le rôle de la reine Elisabeth il n'y a pas très longtemps, enfin je ne sais plus, c'est 2-3 ans je crois le film, Hélène Mirren. C'est elle, Betty Melaich, qui est la milliardaire, là. Hélène Mirren. Ensuite, on a Ian McKellen, on a June Carter dans les rôles principaux, Russell Tovey. C'est titré « Une cible peut en cacher une autre ». Voilà ce qu'on voit dans l'extrait. Le budget du film, en fait, est de 10 milliards de dollars, ce qui est très peu. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Par rapport à tous les films de Bill Condon, par exemple, on avait en 2017 « La Belle et la Bête » avec Kristen Stewart et Robert Pattinson. On s'en souvient, hein. Attendez, La Belle et la Bête 2017, c'est Emma Watson, voilà, voilà. Emma Watson, on a parlé d'elle, justement. Elle joue le rôle de Meg hein, dans Les Filles du Dr Marsh. On en a parlé tout à l'heure. Emma Watson, décidément, ça marche fort pour elle aussi. Non, je parlais de Kristen Stewart et Robert Pattinson parce que Bill Condon a quand même réalisé Twilight, le chapitre 4 et 5. Et il a réalisé également, avec Beyoncé et Eddie Murphy, Dreamgirls en 2007. Donc, ce qui veut dire que tous ces films ont coûté extrêmement cher, 3 ou 4 fois ce qu'a coûté l'art du mensonge. 10 millions de dollars, effectivement, là-bas, pour les Américains, c'est pas grand-chose dans un film par rapport à ce que coûtent d'habitude les films de cet homme-là. De ce réalisateur, mais qui a réalisé quand même des films assez chouettes. Hein. C'est pas non plus, il dépense pas de l'argent pour nous donner des mauvais films. Hein. L'art du mensonge. Bon ben voilà, ça dure 1h50. Et si vous aimez ce genre d'histoire, voilà, si vous-même avez une cible quelque part, non je plaisante, hein, mes chéris, je plaisante. C'était pour rire, l'art du mensonge. J'ai bien aimé, moi. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je l'ai bien aimé. Ah, peut-être que Damien a quelque chose pour
J'ai
nous,
en fait. J'ai une bande-annonce que l'on écoute.
L'art du mensonge.
Alors, dites-moi, est-ce que vous faites ça souvent ? Rencontrer des femmes via Internet ? Vous ne trouvez pas que c'est toujours un peu la même chose ?
Vous parlez des attentes qu'on nourrit, suivies de l'inévitable déception. Mais bon, je me dis, ne baisse pas les bras. Cette fois, ce sera différent. C'est la raison pour laquelle je dois maintenant vous avouer que je vous ai un peu menti. En réalité, je ne m'appelle pas Brian. Je m'appelle Roy.
À l'avenir.
À ton avis, combien elle a ?
Pas loin de 3 millions de livres.
Tu vas tout lui prendre ?
Et comment je vais lui voler jusqu'au dernier sou ?
C'est votre petit-fils ?
Ça va trop vite entre vous. Vous brûlez les étapes.
Je me suis beaucoup attaché à toi.
Sais-tu seulement qui tu es ? Tu es la seule personne sur cette terre grâce à laquelle je ne me sens pas seule.
Je me suis renseigné sur toi. Je sais qui tu es.
Tu devrais pas faire ça, Roy. Tu aimes le jeu, la montée d'adrénaline.
Et quand bien même.
J'ai l'impression que vous en avez vécu des choses.
Assez pour remplir plusieurs vies. Il suffit d'une seconde pour que nos vies basculent.
Tu sais, c'est très étrange de faire des choses qu'on n'aurait même jamais imaginées. Des secrets entre toi, Dieu, le diable. Il est mort.
Tu ne sais rien de lui.
L'art du mensonge.
Le vilain bonhomme.
Oh là là là.
Mais c'est Ian McKellen. C'est le vilain bonhomme, là, c'est Ian, pardon, McKellen. Hein. J'avais donné son nom, c'est lui, le vilain, l'escroc. Ah oui, c'est un drame quand même, c'est pas vraiment une comédie. Hein.
Non, on peut pas dire, non.
Non, non.
On peut pas dire ça.
Ah non, c'est... ben, si vous voulez savoir, mes chéris, comment ça se termine.
Eh bien, si allez le voir aussi.
Voilà, si c'est lui qui va avoir l'argent ou s'il ne va pas se laisser faire ou gna 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 gna, allez savoir. Eh bien, allez voir le film. Voilà. Merci Damien, c'était ça. Ensuite, j'ai un drame belge. Bah oui, c'est bon, un drame belge qui s'appelle Ghost Tropic. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est Fantôme des Tropiques ou quelque chose comme ça. Hein. C'est un réalisateur, scénariste, monteur belge de 36 ans qui s'appelle Bas De Vos. Oui, pas de rapport avec notre De Vos malheureusement disparu. Hein. Non, c'est pas de la même famille. J'ai pensé, moi, tout de suite, hein, De Vos, je me suis dit, oh, non, mais non, j'ai vérifié. Donc, il a son film à 4 nominations à la quinzaine des réalisateurs en 2019. Des jolies nominations. C'est l'histoire de Khadija, 58 ans, qui s'endort dans le métro après une longue journée de travail. Quand elle se réveille au terminus, elle n'a pas d'autre choix que de poursuivre son chemin à pied. Ce voyage nocturne l'oblige à demander de l'aide auprès des résidents de la nuit. Alors, l'actrice est formidable, qui fait Khadija, c'est Saadia Bentayeb. On la connaît, hein, c'est une actrice française. Donc, on l'a déjà vue dans les films français. On a, dans les autres rôles principaux, on a Maïk Neuville, qui est une actrice belge. Et on a Nora Dari, qui est également une actrice belge. Bas De Vos, là, nous dit « J'avais envie de faire un film qui soit le récit d'une seule nuit » avec un bref épilogue à une autre époque et à un autre endroit. Les scènes se succèdent de manière fluide. Le point de départ de l'intrigue devait être un incident ordinaire, presque banal. Une femme, Khadija, s'endort dans le dernier métro. Elle est forcée de traverser Bruxelles à pied en pleine nuit. La totalité du film se déroule pendant une nuit glaciale d'hiver, à l'exception de l'épilogue. Voilà ce qu'il nous dit le réalisateur sur son film. Moi, c'est un petit coup de cœur. Hein. J'ai trouvé que c'était joli pour un drame. Il est bien fait. Ça dure 1h25. Si ce genre d'histoire vous plaît, vous tente, allez le voir. Hein. Allez voir Ghost Tropic. Moi, je le voudrais en DVD après pour pouvoir le regarder de temps en temps.
Pour pouvoir le voir et le revoir.
Oui, tout à fait. J'attends qu'ils sortent. Ensuite, j'avais un drame islandais et français. Écho, ça s'appelle. Écho comme un écho. C'est de... Attention, on ne se moque pas de ma prononciation. J'ai dit que j'allais mettre à l'Islande, à l'islandais, la langue... Mais non, c'est pas vrai, je ne m'y mettrai pas, c'est trop compliqué.
Je
ne
me moquerai pas du tout, car l'islandais est extrêmement compliqué. Vous rappelez, ami auditeur, le célèbre volcan qui avait érupté il y a quelques années, dont les avions ne pouvaient pas voler à cause de lui.
Oui.
Il était islandais et la plupart des journalistes se mettaient bien dedans quand ils voulaient annoncer le nom du volcan.
Oui, c'est vrai cette histoire. Mais oui.
Il y avait même eu un film qui avait porté le nom de ce volcan.
Alors là, on fait des essais. Il s'appelle Runar. Runarsson.
Ah, oh,
Runar Runarsson.
Bon, ça va.
Celui-là est assez...
C'est faisable.
Réalisateur, scénariste, producteur islandais qui est très connu chez lui. Hein. Il est très apprécié comme réalisateur. Il a 42 ans. Il a déjà eu 2 prix et 20 nominations. Et pour son film Écho, il a le prix du jury jeune au Festival international du film de Locarno en 2019. C'est quelqu'un... Alors, ça se passe en Islande, donc, évidemment. Alors que tout le monde se prépare pour les fêtes de Noël, une ambiance particulière s'empare du pays. Entre exaltation et inquiétude, Écho dresse un portrait mordant et tendre de notre société moderne. Alors, dans les rôles principaux, on a Bjarki Thor. Oui, Thor, comme le personnage là, de BD, là, Thor. Ouais, ça s'écrit comme ça. Ouais, Bjarki, parce qu'il y a un BJ, Bjarki, donc on passe sur le B, hein, Thor. Et Ragnar Johnson. Donc c'est titré « Magnifique et émouvant ». grinçant, profondément humain. Écho, 1h19. Pareil, moi, je voudrais bien le DVD quand même. Eh ouais. On verra en tout cas si ça vous intéresse. Si vous voulez visiter un peu l'Islande, bah, c'est le moment ou jamais d'aller voir Écho. Parce qu'on voit bien quand même, là, on voit l'Islande. Et puis, j'avais une comédie dramatique, c'est marocain, c'est français, c'est qatarien. Ça s'appelle « Le miracle du saint inconnu ». Alors pareil, celui-là, moi, j'ai mis un petit coup de cœur. Je le trouve vraiment... Il y a plein d'humour, en fait, dans ce film. Je crois que c'est ce qui m'a plu beaucoup. Ça se passe au beau milieu du désert. Amine court, sa fortune à la main. La police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient 10 ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré, le saint inconnu. Obligé de s'installer au village, Amine va devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission première, récupérer son argent. Parce qu'il faut voir, en fait, quand il bricole cette tombe, ça ressemble, hein, on voit un tas de sable, de terre, ça, avec une croix, on a l'impression que quelqu'un a été enterré. Voilà ce qui amène justement cette histoire de pèlerins qui viennent adorer quelqu'un qui serait là enterré. Moi, j'ai trouvé que c'était plein d'humour, que c'était très bien joué en plus. Alors, le réalisateur s'appelle Alar Eddine Aljem, c'est un réalisateur scénariste marocain. Il a 31 ans et son film a 5 nominations, 4 à la Semaine internationale de la critique 2019 et 1 au Festival de Cannes 2019, série Caméra d'or. Et dans les rôles principaux, on a Younes Bouab qui joue Amine le voleur. Younes Bouab, il est assez formidable d'ailleurs. On a Salah Ben Salah, on a Anas Elbaz. Alors Anas Elbaz, c'est un acteur qui est très 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 connu au Maroc. Je le signale parce que il est connu là-bas, mais vraiment énormément. Anas Elbaz est très apprécié. Alors c'est titré Une belle fable, un récit presque cartoonesque de ruée vers l'or, diablement malin comme un film des frères Cohen. Eh oui, si vous connaissez un peu Joël et Ethan Cohen, voilà, bon, bah, ça ressemble, effectivement. Mais le cartoonesque, oui, voilà, ça c'est le côté humoristique du film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais vraiment, quoi, hein, c'est le miracle du saint inconnu. En fait, Alaa Eddin Aljam, le réalisateur, a eu l'idée d'un village adorant un saint inconnu de par le fait qu'il a, lorsqu'il était enfant, lui-même, beaucoup traversé le sud du Maroc avec sa mère. Des images lui sont restées, comme ces petites constructions blanches situées au sommet d'une colline ou au contraire isolées au milieu de terrains vagues. Alors il dit, voilà, je trouvais ça très beau, sans savoir vraiment pourquoi. Et bien plus tard, alors que j'étais en repérage pour un autre film, j'ai vu l'un de ces mausolées. Je m'approche, il n'y a pas de nom. J'interroge le gardien. Mais qu'est-ce que c'est ? Un mausolée d'un saint très puissant, me répond-il. Mais qui ? Franchement, je ne sais pas. Il y a beaucoup de mausolées comme ça au Maroc. Les saints qui s'y trouvent n'ont pas été canonisés selon le long processus de l'Église catholique. On les appelle aussi des marabouts. Le mot désigne à la fois le mausolée et celui qui l'abrite. Il y en a de très connus au Maroc dont l'histoire est amusante. Un villageois possédait un âne qu'il adorait. À sa mort, il a voulu lui donner une sépulture. Bien sûr, il ne pouvait pas l'enterrer dans le cimetière des villageois. Alors, il l'a fait plus loin, à la sortie du village. Plus tard, des gens ont construit un mausolée au-dessus de sa tombe et c'est devenu un saint très connu dans le pays, même si on sait qu'en fait, il s'agit d'un âne.
Tout ça, c'est des histoires vraies.
Ah oui, c'est une histoire vraie. Mais c'est pour ça, il y a tellement d'humour. Alors, en fait, le village du miracle du saint inconnu du film est perçu en partie comme un microcosme de au Maroc, en fait, le pays est arrivé à une époque assez cruciale. C'est ce qu'il nous dit, le réalisateur. Hein. Par exemple, sous Hassan II, la vie était assez dure. Mais Mohamed VI, lui, a apporté un souffle de renouveau. Il voulait moderniser le pays, il voulait diversifier les activités économiques. C'était un roi jeune qui a amené un gros espoir. Aujourd'hui, ce souffle s'est épuisé. Eh oui. Au Maroc, la jeunesse ressent la nécessité d'un renouveau, d'un nouveau projet, pardon. Des amis à moi, qui n'aiment pas le foot, priaient pour que le Maroc organise une Coupe du Monde. Si seulement on pouvait avoir ça, disait-il, ce serait un objectif national. On aurait eu envie d'y croire et on serait allé de l'avant. Le Maroc a besoin de ce souffle-là, nous dit le réalisateur. On ne peut pas se contenter d'être des individus dans un espace géographique. Il faut une croyance commune. Ça se ressent très fort dans les sociétés comme la mienne, où il y a un ensemble de codes, de croyances populaires très importants, très nourris, qui existent depuis très longtemps. Voilà, c'est une fable burlesque, le miracle du saint inconnu. Mais c'est quand même aussi un film choral, hein, qui est bâti autour de plusieurs personnages sur le rapport à la foi, l'observation de la transformation d'une micro-société. Voilà, moi, c'est encore un petit coup de cœur, vraiment.
C'est les coups de cœur c'est les étrennes, on va dire.
Ah oui, allez, tout à
on
fait.
On vous offre les coups de cœur à tire-larigot.
Ah oui, absolument. Mais chérie, si c'est ce genre d'histoire vous plaît, vous amuse, vous tente, allez voir Le Miracle du Saint Inconnu. Ça dure 1h40 et ça vaut vraiment la peine. Hein. Très, très chouette. Et oui, et voilà. Et pour finir, ben j'avais un documentaire allemand, français, américain qui s'appelle Cunningham. Cunningham, ça retrace l'évolution artistique d'un chorégraphe américain très célèbre, Mercy Cunningham, de ses premières années, par exemple, comme danseur, hein, dans le New York d'après-guerre, jusqu'à son émergence en tant que créateur visionnaire. Tourné en 3D. Avec les derniers danseurs de la compagnie, le film reprend 14 des principaux ballets d'une carrière riche de 180 créations sur une période de 70 ans. C'est vraiment c'est assez exceptionnel hein, quand même. Alors Cunningham est un hommage puissant à travers des archives inédites à celui qui a révolutionné la danse, ainsi qu'à ses nombreux collaborateurs, en particulier le plasticien Robert Rauschenberg et le musicien John Cage. C'est présenté, en fait, ce documentaire a été présenté dans plusieurs festivals de documentaires. Il a été très apprécié. C'est pour les fans de danse contemporaine, absolument. C'est titré « Une splendeur », le portrait d'un génie, une expérience à couper le souffle, qui prolonge ce que nous avions débuté avec Pina Bausch. Et c'est Wim Wenders qui a dit ça. Qui a dit que, voilà. Pina Bausch, je rappelle hein, vite fait que c'était une danseuse chorégraphe allemande qui a travaillé pendant 48 ans la danse. Elle est décédée en 2009. Elle était née en 1940. Elle est considérée comme l'une des principales figures de la danse contemporaine et du style danse-théâtre. Et Wim Wenders, qui parle d'elle et qui a fait un film sur elle, c'est un réalisateur, scénariste, producteur de cinéma et photographe allemand. Il est l'un des représentants majeurs du nouveau cinéma allemand des années 60-70. Voilà, voilà pourquoi je l'avais mis de côté, ce documentaire. J'aimerais aussi avoir le DVD. Décidément, je n'aurais plus de place pour les mettre.
S'il fallait dire tout ça avant Noël.
Ah oui, bah oui. Malheureusement, là, il sort le premier, quoi. 1h33. Et si vous aimez la danse contemporaine, bah écoutez, vraiment, ce film est pour vous absolu. C'est absolument ça, c'est celui qu'il faut voir. Ah ben si, j'avais oublié aussi que j'avais une romance, un drame chinois, Séjour dans les mots Fun Chun. C'est Gu Xiao, attention, Xiaogang, Gu Xiaogang. Et alors là, j'ai fait le plus gros effort que je pouvais faire. Hein. Réalisateur, scénariste chinois, il a 31 ans. Son film a une nomination à la Semaine internationale de la critique en 2019 en film de clôture. C'est le destin d'une famille qui s'écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d'un fleuve. Pourquoi fleuve ? Un fleuve. Voilà, c'est avec Qian Yufa, Wang Fenchuan dans les rôles principaux. Ça dure 2h30. Je trouvais que ça valait le coup. Si vous aimez le cinéma chinois, bah là, c'est vraiment ça, quoi. C'est une très belle représentation de ce cinéma-là. Séjour dans les mots Fun Chun. Et puis, voilà, c'est terminé. On a quand même restauré Lola Montes, qui était sorti en 1955 de Max Ophuls avec Martin Carol, Peter Ustinov, et donc qui sort là à partir d'aujourd'hui, restauré. Et on a Vacances aussi, qui est sorti en 1944 de George Cukor, avec Catherine Hepburn, qui dure 1h35. Max Ophuls dure 1h50, au fait, je ne l'ai pas dit. Et Vacances, c'est une comédie romance magnifique. Ce sont deux films magnifiques, restaurés à partir d'aujourd'hui, vraiment.
Donc,
deux très beaux films.
N'hésitez pas à aller faire un tour au cinéma.
Oui.
Et passer encore une excellente année à venir. Très bon vœu pour vous en ce début 2020.
Absolument. Les deux films restaurés, Damien, existent en DVD. Hein. Ils existent déjà en DVD. Pour ceux qui voudraient les avoir, Lola Montes, qui est une merveille, et Vacances, qui est magnifique. Voilà, au cas. Bon, ben, voyez, ben, oui, ben, écoutez, moi, je vais essayer d'aller soigner mon rhume, mes enfants. Hein. Voilà. T'as pas de Doliprane, toi, un petit Doliprane, Damien, ouais, tu n'as pas ça avec
t'as
toi?
T'as trop bringué pour le réveillon.
Mais non, même pas. Allez. J'ai juste attrapé un petit rhume et j'ai bobo à la tête. Bon, mes chéris, passez une bonne semaine, en tout cas. Mais faites attention, hein, parce que là, le froid, quand même, pince un peu. Hein. Alors, couvrez-vous, ne faites pas comme moi. Hein. Mettez un bonnet, une écharpe et tout, et tout, et tout. On ne fait pas les coquets quand il fait froid. Je dis ça pour moi, d'ailleurs. Bon, bah, écoutez, en tout cas, en attendant, n'oubliez pas d'aller hein, au cinéma, voir des films dans les salles de proximité que nous, on chouchoute ici à Radio Entre-deux-Mers, comme vous le savez. Et n'oubliez surtout pas, et encore moins aujourd'hui, en 2020, que je vous aime. Bisous, bisous. J'en rajoute. Bisous, non. Bisous, parce que c'est la nouvelle année.
Aux yeux, tu sais.